Carnaval. Carnaval. J'ai vu le cul de ma tête. J'ai crié victoire. J'ai crié défaite. Carnaval. Carnaval. The girl.
All right. Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Walk with us on Saturday, June 11th at 1 p.m. Join us for the 8th Annual Spirit Walk on beautiful Mount Royal. The Spirit Walk is an annual fundraiser for the Native Women's Shelter of Montreal, Foyer Potham. Register to walk and set a personal goal to fundraise for the shelter. All funds go directly to the Native Women's Shelter of Montreal towards their second stage housing project and Saradikitak Social Pediatric Clinic. Join us for fun, community-driven, even including musical performances generously supported by CKUT. Everyone is welcome. Bring your friends, family, and pets and come walk with us. Follow our Instagram at SpiritWalkMTL for links to register and for more information.
Previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbaye Adji Mbaye Riway. Cette semaine.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Dignité Noire, ce que c'est Kaya 88.3 FM. Nous sommes le 30 mai, l'avant-dernier jour du mois de mai. Mon nom est Mbaye, je suis avec vous jusqu'à 20h en compagnie de mon fidèle compagnon Brice. Salut Brice, comment ça va?
Ça va Mbaye,
vous n'avez pas vu Brice, il est frais, là. C'est la fraîcheur aujourd'hui. Ah, il fait chaud, mais lui il est frais quoi.
J'ai quitté le boulot, j'ai quitté le boulot.
Ah oui, il est bien en banquier là aujourd'hui. Alors content de te voir Brice.
Ça fait plaisir.
Alors aujourd'hui le programme est un peu chargé là. Là aujourd'hui on est, mais on est très content quand le programme est chargé, quand on reçoit les gens comme ça, ça nous fait plaisir. Cette maison est hospitalière. Donc, je rappelle, vous pouvez toujours nous suivre sur 88.3 FM ou alors sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIA FM. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Donc, vous pouvez nous écouter à votre guise. Aujourd'hui, j'ai une petite recommandation pour vous avant de commencer. J'ai ce livre très intéressant. Vous voyez la caméra où là, c'est ça, oui. Je vous montre ce livre que je vous recommande. C'est toujours bien de lire, hein, n'est-ce pas? Noirceur, race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle. Écrit par notre ami Normand Adjari, qu'on a l'habitude de recevoir ici. C'est un philosophe qui est ancien aux États-Unis, maintenant il est en Écosse. Alors, c'est un livre très intéressant qui recense les théories, les pensées noires qui sont beaucoup plus développées en anglais. Fait que lui, les recense En français, c'est la première fois qu'on trouve un tel volume en français. Fait que, si vous voulez un peu comprendre la pensée noire, bah, lisez ce livre-là. Parfait. Alors aujourd'hui, on a trois invités, n'est-ce pas? Quatre, mais trois segments. On va commencer par Arabelle Amos qui fait de belles choses. Une entrepreneure qui fait de belles choses. On va parler d'elle, de son parcours, de ses produits. Ensuite, dans un second temps, je vais recevoir Mambou de 24 heures chrono qui a lancé une campagne de sociofinancement spéciale, un défi push-up, n'est-ce pas? Push-up. Donc, il va nous dire en quoi ça consiste. Et à la fin, on va faire écouter la dernière chronique de Oumou. Oumou nous fait sa dernière chronique littéraire avec quelqu'un qui veut créoliser le Québec. Il y a un auteur qui a écrit un livre, il veut créoliser le Québec. Moi, je pensais que le Québécois, la langue québécoise était déjà assez créolisée. Mais lui, il dit non, c'est pas assez, il va encore créoliser davantage. Fait qu'on va le recevoir tantôt. Alors, pour commencer, j'ai avec moi Arabelle. Arabelle, c'est la première fois que tu viens dans notre studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Pas très stressé, là?
Ça va.
Ah, mais ça va, c'est relax, ça c'est bon, je suis content comme ça. Alors, Arabelle, toi, tu es entrepreneur, tu fais de belles choses. Moi, je t'ai découverte il y a une semaine, je pense.
Oui.
C'est ça, c'était au salon, au défilé de mode et puis l'expo-vente organisée par Sabine à l'église à Saint-Roch. Fait que c'est là où j'ai découvert, c'est où le Brice? Tu peux me donner la canette, là? Alors, toi, tu fais de belles choses. Parmi les choses qui ont attiré mon attention, c'est ça, BISAP. Je me permets de faire un peu la publicité quand même là. Bissap. Merci. Donc Bissap, c'est une canette. Bissap, c'est les fleurs d'hibiscus. Donc elle a fait des canettes. En général, en Afrique, bon, on fait ça l'artiste de manière artisanale. Et puis on met dans les bidons, on boit.
Dans les sachets.
Dans les sachets là. Mais là, elle fait comme des canettes là, comme des Coca-Cola et tout. Fait que ça, c'est magnifique ça. Alors, Arabelle, toi,
oui,
comment ça va?
Ça va bien.
Toi, tu as étudié à l'université Laval.
Oui.
En quoi?
En géomatique.
Géomatique, mais tu étais architecte. Hein?
Oui, exactement.
Tu viens du Bénin, toi.
Exactement.
Fait que tu étais architecte. Tu as étudié au Maroc en architecture.
C'est ça.
Puis tu es arrivé. Le volume est bon, là, Brice?
Oui.
OK. Donc là, tu es arrivé ici pour étudier la géomatique. Tu as fini tes études quand?
En 2019.
2019. Et puis là, oui. Quelle la mouche de l'entrepreneuriat t'a piqué? Je ne sais pas si les Béninois, ils aiment beaucoup l'entrepreneuriat. Brice aussi, il me parle tout le temps de l'entrepreneuriat. Vous aimez ça, chercher l'argent, vous autres les Béninois?
Mais, en tout cas, on aime ça, partager aussi.
Je taquine. Alors, comment est-ce que l'idée de créer... T'as combien d'entreprises déjà là?
Plusieurs, j'ai arrêté de compter parce que...
Bon, dis-nous trois, par exemple.
Ben, en fait, je suis architecte, donc j'ai un cabinet d'architecture. Okay. Je suis inscrite à l'Ordre des architectes du Bénin.
Okay.
J'ai aussi une entreprise de vêtements, de déco, de mode,
ouais.
Calebasse Design. Et j'ai une page, un blog pour les mamans. C'est African Mom in Canada. Donc, c'est vraiment pour partager justement par rapport à toute cette expérience de maman immigrante, de maman africaine, mais qui est dans un contexte totalement différent. Donc, ça a été une révolution pour moi et j'ai tellement aimé l'expérience que je me suis dit, il fallait absolument que je partage avec d'autres mamans parce que c'est plein de... En tout cas. Ouais. Donc, c'est ça, c'est quelques-unes de...
De tes entreprises. Il y en a une là, qui m'intéresse beaucoup, Dassa.
On ben oui.
Alors, Dassa, ça consiste en quoi? D'abord, ça veut dire quoi, Dassa? L'entreprise Dassa, là. Dassa, ça veut dire quoi?
Dassa, en fait, c'est une ville du Bénin. C'est une ville, okay, du centre du Bénin.
D'où tu viens?
D'où je viens, oui, effectivement. Donc, c'est un peu en hommage à ma mère. Et aussi, en fait, parce que, comme je disais, c'est le centre. Donc, c'est vraiment le carrefour du Bénin, finalement. Donc, quand tu quittes le nord pour aller au sud, ben, tu passes par le milieu. Donc, c'est vraiment à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, je vis au Canada. Donc, c'était un peu, justement, pour être à la croisée entre le Bénin, mon pays d'origine, et le Canada, mon pays d'adoption.
Et qu'est-ce que Dassa offre comme service? Ton entreprise, tu fais quoi avec ça?
En fait, je fais de la transformation agroalimentaire. Donc, mon but, c'est vraiment d'offrir des produits d'inspiration africaine ici au Canada. Donc, pour faire découvrir, vulgariser la culture culinaire, toute notre richesse africaine. Africaine, c'est un bien gros mot parce que je ne la connais pas toute la culture culinaire africaine, mais plus ouest-africaine.
Okay.
Donc, c'est ça. C'est en l'occurrence, par exemple, le bissap, qui est une boisson tellement populaire, ultra populaire de tous les jours et aussi des grands événements. Donc, je trouvais intéressant justement de pouvoir partager.
C'est le premier produit là, que tu as mis sur le marché ou il y en a d'autres?
Mais en fait, c'est le premier produit que je mets à grande échelle. Okay. Mais sinon, j'ai commencé en fait avec le déguet. Le déguet.
C'est quoi le déguet?
J'aime beaucoup, mais beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi.
C'est du yaourt, du yaourt avec des graines de millet ou de mil. Donc, c'est vraiment comme un parfait finalement. Donc, un mélange de yaourt et de céréales.
Et donc, tu embouteilles ça, tu vends à 5 pièces, je pense.
Exactement.
C'est à très bon prix, c'est très nourrissant le matin quand on prend ça, là, on en a pour la journée. Donc, Bissap, là. Là, toi, en général, Bissap, les gens font ça, ils mettent dans les sachets, mais toi, tu mets dans les canettes. L'idée est venue d'où, ce concept-là? C'est la première fois que je vois ça. Et ça, ça m'a attiré parce que je me dis, tu sais, tu prends quelque chose de banal et puis tu mets dans un contenant et tu en donnes tu vois, quelque chose de particulier, une certaine innovation, là, n'est-ce pas?
Oui.
L'idée t'est venue d'où? Comment t'as été inspiré pour faire ça?
Ben, en fait, c'est parti vraiment de... Il y a quelque chose, une citation qui dit qu'on consomme avec les yeux avant de consommer avec la bouche. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup ce qui est beau. Peut-être une déformation professionnelle aussi.
En tant qu'architecte.
C'est ça. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien ça avoir des canettes de Bissap à partager avec mes amis. Et au lieu de rester sur cette idée de me dire, mais... il n'y en a pas, je me suis donné comme défi de le faire, de le réaliser. Parce que si j'attends toujours que quelqu'un produise ou que je me plains qu'il y a quelque chose qui manque, ben, il manque ça, fais-le. D'autres font ce à quoi ils pensent. Donc, c'est ça. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit, ben, je vais me donner ce défi-là. Et des formations professionnelles, toujours, j'adore chercher. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la recherche. Donc, je me suis donné les moyens de trouver comment ça fonctionne parce que nulle part il n'y a ni agroalimentaire ou agronomie ou agriculture dans mon CV.
De l'architecture, tu tombes à l'alimentaire. Waouh, quel bon. À ceux qui nous écoutent, hein, l'entrepreneuriat, c'est ça. Là. Vous voulez foncer. Mais là, toi, tu ne fabriques pas d'aluminium dans ta maison. Là. Comment tu as fait pour trouver les canettes, mettre ça dedans là? Toi-même, tu fabriques le Bissap, tu amènes quelque part en bouteille ou comment ça se passe?
Mais en fait, c'est tout un processus. Donc, j'ai regardé comment est-ce que justement je pourrais faire ça pour apporter ce produit que je voulais comme ça. Et j'ai cherché en fait un peu comment ça fonctionne, comment d'autres le font. Et quand j'ai découvert les différentes façons qui pouvaient exister, j'ai choisi celle du partenariat.
Donc, tu veux faire affaire avec une entreprise de la place. Donc, c'est l'entreprise même qui fabrique le jus ou toi, tu fais et puis elle embouteille seulement?
Mais en fait, elle le fabrique.
OK, tu donnes la recette et puis il fabrique l'embouteille et tout.
Exactement.
Waouh. Tu sais quoi, tu es une source d'inspiration pour moi aussi. Je vais chercher autour de moi, là, qu'est-ce que je peux mettre dans une bouteille, une canette. Bon, maintenant là, tu as eu une belle idée, tu as fabriqué le produit. Ben, est-ce que les gens boivent? Est-ce que ça se commercialise? Comment ça se passe là? Moi, j'ai acheté 6 packs. Alors, pour votre information, 6 packs, c'est juste 21 pièces. Et puis, c'est santé là. C'est pas comme... je ne veux pas dire Coca-Cola là, mais ça, c'est plus santé là. Donc, c'est 6 packs, pack de 6 canettes, très abordables, puis nourrissants. Comment tu commercialises ça? Une chose est de fabriquer, mais là, il faut... vendre parce que moi j'aimerais te voir riche un jour là. Hein?
Merci beaucoup. Ben oui, en fait, en ce moment, on est justement en plein dans la recherche de partenaires pour distribuer le produit. Okay. On est comme par exemple au Provigo sur la rue Mirand. Donc si vous voulez vous procurer le produit, vous pouvez directement y aller. Et sinon, également, on a un site internet, une plateforme sur laquelle vous pouvez passer vos commandes.
Super. Donc là, tu as trouvé déjà un distributeur.
Oui,
après combien de temps de mise sur le marché?
Ben, en fait, le produit il est sorti il y a 3 semaines à peu près.
À peine? Mais t'es chanceuse, là. Comment t'as fait pour... Ça, c'est pas facile de trouver les distributeurs hein, pour les produits alimentaires.
C'est vrai, effectivement. C'est quelque chose, en fait. Il faut dire que le projet, je ne me suis pas levée hier pour le commencer. Donc, c'est vraiment un projet qui a mûri, que j'ai pris le temps de mettre en place. Parce que depuis, déjà l'année dernière, en début d'année, je participais justement à un concours de pitch. Donc, Rise Up, c'était un concours canadien et J'étais finaliste parmi plus de 300 candidats. Donc, je pense que ça aussi, ça m'a donné vraiment la motivation de pouvoir me dire si certains ont cru. En plus, à ce moment-là, c'était vraiment juste le dégât que je proposais. Si certains ont vu ce potentiel, il faudrait vraiment pas lâcher. Donc, j'ai commencé les étapes et puis progressivement, j'ai contacté de potentiels distributeurs pour pouvoir justement mettre le produit en marché. Et là, comme le produit est disponible, je suis reparti les voies et puis voilà.
Moi, j'étais conquis, hein, je t'avoue. C'était samedi, là, je pense, samedi au défilé de mode. Puis j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est génial l'idée. Et puis j'ai dit, bah, le lendemain, on était revenu, j'en ai acheté. J'ai dit, bah, écoute, là, cette semaine, je me grattais la tête parce qu'à chaque émission, j'aimerais présenter quelqu'un de la communauté qui fait des belles choses. Puis j'ai dit, celle-là, il faut que je la présente parce que c'est quelque chose de magnifique. Fait que tu vois, moi aussi, tu m'as conquis avec ça. Et j'espère que tu vas conquérir pas mal de vendeurs. J'ai apporté une bouteille pour Brice. Pour qu'il puisse faire la publicité aussi autour de lui.
Merci vraiment aussi pour l'invitation.
Ben oui, ça fait plaisir. Ben là, tu sais, dans 5 ans, là, où te vois-tu avec ça, là? Multinationale de Bissap?
Ben, en tout cas, dans 5 ans, je me vois où, comme je disais, le but avec Dassa, c'est vraiment de vulgariser, de mettre en avant tout ce qui est richesse culinaire ouest-africaine. Donc, dans 5 ans, je me vois avec différents produits. Et ultimement, j'aimerais que si on croise, peu importe la personne dans la rue, qu'on lui demande, mais et si cette fin de semaine, on se mangeait quelque chose d'africain, il puisse me dire, ah oui, tiens, on va boire le bissap à notre apéro et puis on va peut-être manger quelque chose, on va prendre au dessert du dégay, mais j'aimerais pas, enfin, je souhaiterais que ça aille plus loin que juste la diaspora qui connaît déjà les produits qu'ils consomment.
Ouais.
Comme un peu à la, on va manger de la poutine ou on va manger de la pizza ou des sushis, qu'on puisse dire aussi on va boire du dégay, on va boire du bissap. C'est vraiment ça mon but. Donc,
populariser le concept. Mais c'est ça, sortir aussi du carcan, juste un produit exotique là, c'est un produit commercial, point.
Exactement.
Là, on achète parce qu'on aime le goût. Pas parce que c'est africain seulement, n'est-ce pas? C'est africain, bien sûr. Mais c'est un produit qui peut compétir avec d'autres produits, n'est-ce pas? Ça, c'est intéressant. Mais là, j'imagine donc que, là, actuellement, tu es un peu seul dans ton affaire. Là. J'imagine que tu vas t'entourer de marketistes. Hein, ça va grandir un peu ton affaire?
Effectivement. Donc, je suis seule à voir, mais j'ai toute une équipe derrière aussi qui me soutient et justement qui m'accompagne dans tout ça. Et donc, effectivement, c'est sûr que si je veux aller plus loin, il faudrait que je m'entoure des bonnes personnes. Donc, je sélectionne effectivement les personnes avec qui, justement, j'ai besoin d'avancer pour aller chercher les compétences que je n'ai pas forcément et qui sont vraiment nécessaires à avancer.
Dernière question, là. Tu es une jeune femme, tu viens de finir tes études, tu es maman, immigrante. T'imagines, il y a pas mal de défis là, pour être entrepreneur, n'est-ce pas? Il y a peut-être beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent là, n'est-ce pas? Qui sont mamans comme toi, immigrantes, peut-être qu'ils ont des idées, elles ont des idées, elles hésitent. Hein. C'est quoi tes défis, les défis que tu as rencontrés et puis comment tu les as surmontés là? Comme voilà, entrepreneur, maman, jeune maman, comme immigrante, etc. C'est quoi tes 2 ou 3 défis et puis comment tu les as surmontés comme pour en inspirer d'autres qui nous écoutent là?
Ben, les défis, il y en a tellement, tellement. Ce que je me dis en général, c'est quand je suis face à un défi, peu importe ce que c'est, d'autres sont passés par là et ils l'ont traversé. Ne vois pas ça comme un défi, mais vois ça comme une situation que tu as à traverser, à dépasser. Donc, comme ça, c'est ma façon de faire et que ce soit pour trouver une garderie, pour concilier le travail, parce que oui, je travaille à temps plein, mais pour peu importe la situation, je me dis, il y a toujours une solution et il faut compter aussi sur son entourage. Donc, moi, je compte vraiment beaucoup sur ma famille, je compte beaucoup sur mes amis et je leur fais un coucou au passage parce que grâce à eux, ben, tout ce qui devrait être des défis, finalement, se transforme en fait et deviennent des situations normales. Et je trouve que tant que tu n'es pas passé par là, tu ne réalises pas qu'il y a une solution. Donc, il y a tout le temps une solution. C'est juste l'état d'esprit avec lequel tu prends le défi qui arrive, qui influence en grande partie comment est-ce que tu vas traverser ce défi-là. Pour la petite anecdote, justement, en ce moment, mon époux, il n'est pas avec moi. Mais malgré ça, au lieu de voir ça comme ben, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je me dis non, il me soutient, on est tout le temps en contact. Et donc, même si sa présence physique à mes côtés n'est pas, tout le soutien que j'ai me donne la force de me dire ben, lève-toi, il y a des mamans monoparentales, bats-toi, fais ce que tu as à faire. Tu veux trouver un travail, tu vas trouver le travail. Pendant longtemps, ma garderie, c'était une garde de soir. Et donc, je me suis trouvé un travail de soir pour cadrer avec. J'aurais pu me dire, mais non, j'ai pas la place et je laisse tomber. Non, faut pas laisser tomber parce que peu importe la situation que tu vas traverser, tu auras une solution si tu prends le temps de l'accepter et de chercher à t'être reposé. Parce que si tu es stressé ou que tu es en colère de la situation que tu vis, ben, t'as pas le recul nécessaire ou t'as pas la clairvoyance nécessaire pour trouver la solution. Alors que si tu te dis, ben, ça arrive, c'est normal, c'est une étape, c'est une épreuve et je vais en sortir grandi, tu relativises et tu trouves les solutions.
Mon Dieu, quelle belle parole inspirante. Finalement, j'ai bien fait de t'inviter.
Merci.
Mais c'est moi qui en ai beaucoup plus appris. J'en ressors grandi en t'écoutant. Là, je vois beaucoup de maturité en toi, beaucoup de sagesse. Puis, je suis convaincu que tu iras loin avec ton produit. Vraiment, je t'encourage sincèrement,
merci
Arabelle.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc, Arabelle, j'étais avec Arabelle, promotrice du produit Bissap, des jus qui sont mis en canette, là, des jus de fleurs d'hibiscus. Et elle a mis ça en canette comme les spiritueux que vous voyez. Et puis là, si vous voulez goûter à ça, c'est le pack de 6, c'est 21 pièces. Puis Provigo sur la rue Miran. Hein. Et puis si vous êtes des distributeurs, vous pouvez la contacter. Comment on peut vous joindre si on veut acheter ou si on veut distribuer ton produit?
Oui, ben, sur notre site internet dasa.order-online.ai, on peut commander directement. Sinon, on est sur Instagram, sur Facebook, c'est Dasa QC pour Dasa Québec. Donc, on peut nous contacter directement et puis ça va nous faire plaisir de collaborer.
C'est un produit du Québec, de Québec en plus, de la ville de Québec. Alors, allez consommer. Moi, j'en ai pris une 6 packs, là, un pack. Je vais encore en commander d'autres, ça, c'est certain. Merci, Dasa, d'être passé par notre studio. Puis, écoute, si tu veux parler d'un autre produit, n'hésite pas à passer, là.
Merci
intéressant.
Beaucoup. Bye.
Merci beaucoup et bonne chance pour ton entreprise. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Nous sommes le 30 mai. Ça roule très vite. Là, on a deux autres invités. Le temps coule très vite. Alors, Brice, on va aller une petite pause et puis on va recevoir Oumu. On va inviter Oumu pour qu'elle nous fasse sa chronique littéraire rapidement. Et puis après, on va recevoir, à la fin, on va recevoir mon ami Amambu, qui va nous parler du défi push-up. Là. Si vous avez une, deux pièces, là, mettez ça, gardez quelque part. Vous allez donner pour 24 heures chrono. Alors, une petite pause musicale et on revient.
Bonsoir, donc moi c'est Oumu et un lundi sur deux, comme l'a dit Baye tantôt, je présente une chronique littéraire. Je suis contente d'être là, même si aujourd'hui c'est ma dernière chronique de la saison. Si tout va bien, je reviendrai en septembre. Donc aujourd'hui, je reçois Radjoul, auteur du livre Créoliser le Québécois aux éditions Somme Toute. Radjoul, tu es né au Togo, anciennement journaliste politique, sociologue de formation et tu es arrivé au Canada en 2016. Tu poursuis des études internationales à l'Université Laval et tu es aussi libraire. C'est comme cela d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Par un pur hasard, j'ai trouvé que ton livre était en plein dans l'actualité. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci Radjoul d'avoir répondu à l'invitation et d'être au studio avec nous.
Tout plaisir est pour moi.
Alors, j'ai un petit rituel. Je demande toujours aux auteurs que je rencontre comment ils sont tombés dans l'écriture, car ça me permet d'en savoir plus sur les auteurs. Donc Radjoul, comment es-tu tombé dans l'écriture ?
Par la lecture. Je suis un lecteur extrêmement pointilleux. En général, quand je lis des livres, j'ai souvent tendance à voir les chemins que les auteurs abandonnent, les friches, les chemins, des idées laissées en friche. Donc à partir de là, j'écris d'une certaine manière pour combler les trous que je trouve dans les lectures des autres. Je me dis, ah, il aurait pu aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'il pousse pas dans cette direction? S'il poussait dans cette direction, et on peut réemployer ce qu'il a dit là dans telle autre direction. Donc c'est ce qui au quotidien me pousse à lire, à continuer de lire, parce que pour écrire une seule page, il me faut en lire au moins une dizaine, donc je lis beaucoup, et voilà.
Ok, donc en fait, tu es un grand lecteur, tu lis combien de livres par année, à peu près ?
J'achète beaucoup, on va commencer par dire ça comme ça, donc je suis un acheteur un peu compulsif de livres, hein, parce que étant donné que je travaille dans une librairie, ça fait que bon voilà, on peut pas résister à ça, et je lis plusieurs livres en même temps, je lis pas que des livres, je lis beaucoup aussi des articles scientifiques, étant donné que j'ai une formation plutôt tournée vers tout ce qui est articles scientifiques, mais de temps en temps, mes lectures sont plus centrées sur les essais, moins de la fiction, je le regrette d'ailleurs, mais la fiction également me nourrit. Bah, cette année, je crois, on est déjà en avril, bientôt juin, on est en juin, voilà. En juin, je crois avoir acquis plus d'une trentaine de livres que je lis tranquillement.
Bravo, vraiment bravo. J'ai pas mal de questions, dont le titre, Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue. Donc on va parler de Créoliser le Québécois plus tard, mais réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement. Alors, moi, ma première question, quand j'ai lu ça, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie, le rapaillement ?
Ah, le rapaillement, j'emprunte la notion ou le concept au grand poète national québécois qui s'appelle Gaston Miron. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit un très grand livre qui s'appelle L'homme rapaillé. À partir de là, il y a une linguiste aussi célèbre au Québec qui s'appelle Anne-Marie Bégin-Baudouin qui a écrit un livre qui s'appelle La langue rapaillée, en parlant de la langue française pratiquée au Québec. Et à partir de là, moi, je reprends ce concept de rapaillement, mais en essayant de le pousser un peu plus loin, comme je disais en introduction, parce que je considère que le rapaillement tel qu'il a été conçu jusqu'à présent était un rapaillement autoréférentiel, c'est-à-dire qu'on ne rapaillait que dans le tissu de la seule langue française. À partir de ce moment, j'en suis venu à la conclusion que on peut faire un rapaillement plus inclusif. Le rapaillement inclusif, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle au Québec ici le joual, qui est une langue qui a émergé spontanément comme ça, mais dans les années 60 et 70, elle a été conduite parce qu'on estimait justement qu'il rapaillait trop avec l'anglais et qu'il n'était pas trop conforme avec le français racine française pure que les intellectuels, toute une série d'acteurs sociaux ont considéré que cette langue-là n'avait pas droit de citer. Donc moi, je reprends un peu ce fil-là en disant qu'il y a moyen de faire un rapaillement inclusif, c'est-à-dire qui va dans le sens de... C'est là-bas que je rejoins le concept de créolisation, mais dans le contexte québécois, il y a un équivalent fonctionnel qui serait le concept de métisserie. La métisserie qui est utilisée par un poète québécois comme Jean Désy, qui élabore beaucoup là-dessus, la métisserie, parce que lui dit « ma langue n'est pas la langue française de France, mais c'est une langue qui se métisse avec les amérindianismes. » Il pratique beaucoup les populations autochtones ici. Donc, moi, ce que j'entendais par créoliser le Québécois, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que rapailler, métisser, créoliser avec l'anglais, pour aboutir à ce que j'appelle un entrelangue de compromis. Un entrelangue de compromis, c'est ma définition d'une langue créole. Et cette langue créole-là, il y a eu un candidat langue, ça a été le joual. Il a été conjugué, donc je l'évoque en termes d'hypothèse, en termes de possible, parce que dans ce livre, mon effort a été de réfléchir à ce qu'on appelle l'insécurité linguistique au Québec. Il y a une question d'insécurité linguistique qui se pose ici au Québec et au Canada, et qui est une question extrêmement sensible au Québec, parce que la présence de la langue anglaise, récemment l'adoption de la loi 96, la loi 101 auparavant, dit qu'il y a une série de crispations autour du rapport entre les deux langues. Donc, vous réalisez, c'est un peu ça.
Justement, je voulais revenir un peu plus tard sur ça. Donc, créoliser le québécois est divisé en plusieurs chapitres. Personnellement, j'ai été impressionnée de toutes les références que tu nommes, des auteurs, livres. Tu avais des références France Fanon, d'autres écrivains comme Rousseau, Elena Ferrante, et j'en passe. Tu parles aussi des 11 nations autochtones. Tu as parlé de Jean Dédy, Naomi Fontaine, Naomi Canapé Fontaine, Joséphine Bacon. Tu fais aussi des comparaisons avec l'Afrique. C'est vraiment du beau travail, vraiment. C'est vraiment impressionnant, je le redis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références dans ton... Même si parfois, si c'est pas écrit, ben, tu sais, c'est très subtil. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis régalée en lisant ton livre, même si parfois, je trouvais que tes mots étaient un peu compliqués, mais je pense que c'est fait exprès, parce que moi, j'aime les choses simples, mais ça, c'est que mon avis. Ça nous permet aussi d'utiliser des mots qu'on n'utilise pas souvent, parce que, comme tu l'as dit, ben, tu as expliqué le mot rapaillement. Personnellement, je ne l'avais jamais entendu, métisserie quelques fois, mais c'est le fait de le mettre en avant dans ton livre, je trouve que c'est super. D'ailleurs, ces mots ont été surlignés en rouge dans mon fichier quand je les ai écrits, comme si ça n'existait pas. J'ai beaucoup apprécié le fait aussi que les mots que tu utilisais en québécois étaient en italique. Et j'ai été déçue que tu utilises l'expression « cerise sur le gâteau », car ici, on dit « cerise sur le sundae ». Donc voilà, au début tu parles du peuple québécois que tu catégorises comme un peuple à la main chaude et au gros cœur qui offre son hospitalité de façon inconditionnelle aux premiers venus sans espérer grand chose en retour. Tu parles aussi du choix du Québec et tu dis avoir choisi les Québécois entre autres en raison de la langue française. Tu dis aussi que tu es en admiration profonde pour la France et tu cites des auteurs français. Tu écris aussi que les Noirs américains ont ceci avec les Québécois de commun, c'est qu'ils se colonisé de l'intérieur. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là?
Ah, ça c'est vraiment la patate chaude que tu me refiles là en ce moment, parce que la question de la présence ou de la symbolique du nègre, je me permets d'utiliser ce mot parce que moi j'ai pas peur des mots, ici au Québec, ça se joue depuis les années 60, où il y a un très grand livre de Pierre Vallière qui a écrit un livre qui s'appelle Les Nègres Blancs d'Amérique. Et dans cette convocation de la figure du nègre, c'était pour dire, il n'y avait pas que lui, il y a Jacques Brault et d'autres acteurs de l'époque, Gilles Bourque aussi qui allait dans cette direction, qui expliquait que bon voilà, il y a une prise de conscience politique qui se réalise au Québec à la fin des années 60, début 70, sur qui est un radicalisme de gauche et une expression d'une forme de solidarité en se reconnaissant dans la condition qui était faite aux populations noires aux États-Unis, en considérant que nous sommes traités comme les nègres, comme les États-Unis traitent leurs nègres, les populations noires aux États-Unis. Donc, cette revendication d'une sorte de négritude ou de négrité au Québec était le moment d'une forme de prise de conscience des conditions sociales particulièrement difficiles qui étaient réservées aux populations québécoises. Donc, moi, je considère que c'était un moment de haute intensité, de solidarité. Aujourd'hui, ça fait beaucoup polémique parce que, bon, voilà, il y a la question du moins-haine que beaucoup de gens voudraient faire disparaître. Du coup, c'est un livre qui est aujourd'hui un peu critiqué de toutes parts. D'ailleurs, dans le prochain bouquin que je vais sortir, j'écris quelques phrases là-dessus parce que je considère que c'est extrêmement important de faire la part sur cette question-là qui n'est pas faite aujourd'hui, parce que un élément qui me semble extrêmement important, c'est que la convocation de la figure du nègre, ce n'est pas pour dire nous sommes des nègres, une sorte d'assimilation infantile à la condition, ou une façon de relativiser les violences et les outrages qui ont été faits aux populations noires dans l'Atlantique esclavagiste depuis le 16e siècle. Donc, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est une forme, c'est l'expression d'une forme de solidarité avec la condition noire, en disant que bon, voilà, nous sommes solidaires. Et d'ailleurs, Montréal a été l'un des bastions des Afro-Américains dans leur lutte pour les droits civiques. Et également, beaucoup de Québécois, notamment des gens du FLQ, se sont déplacés aux États-Unis et ont travaillé avec les Black Panthers et d'autres organisations noires pour la défense des causes noires, parce qu'il y avait... C'était le moment du tiers-mondisme. Il y avait une sorte de solidarité entre les populations du Sud. Et les mêmes Québécois étaient solidaires de lutte des Palestiniens. C'était les radicaux de gauche, une sorte de jeunesse radicale de gauche. Donc c'est plus dans ce sens-là que je disais que voilà, il y a cette identification. Mais voilà, aujourd'hui, cette question serait extrêmement longue à aborder ici.
Ouais.
C'est pas le propos du bouquin, mais comme je dis, il y a un bouquin sur lequel j'élabore plus sérieusement là-dessus.
Oui, je trouvais ça, ton explication, je comprends, mais je trouvais ça quand même un peu fort, la comparaison que tu avais faite. C'est pour ça que je voulais en parler.
Elle n'est pas de moi, elle a été faite par Pierre Vallière,
okay,
qui a écrit un bouquin qui s'appelle
Ok, je connaissais pas, mais c'est... Je vais le lire avant de t'inviter pour la prochaine fois quand tu écriras ton prochain livre. Moi, je pense que mon chapitre préféré, c'est « La littérature française n'est que la fille aînée des littératures francophones ». Pour être honnête, je n'y avais jamais pensé, car ça fait longtemps que j'ai quitté la France. Et en lisant ce chapitre, je me suis demandé comment j'étais passée à côté de ça. Tu dis, je cite, « La littérature française n'est qu'une littérature française parmi les autres ». Je me suis trompée. Péjorativement connoté, l'appellation littérature francophone est tout sauf neutre. On n'a pas cette classification au Québec, et heureusement. Tu cites aussi que la littérature québécoise est jeune, énergique et fougueuse comparativement à la littérature française qui est au bord de la dépression nerveuse. J'espère en tout cas que cette classification va disparaître. Je trouve aussi que la classification en France est complètement décalée. Bref, on est en plein dans l'actualité, parce que dans le chapitre 6, ce qu'il faut préserver, c'est le variant québécois et non défendre la langue française. On est en plein dedans, parce que tu dis que le québécois pourrait hypothétiquement disparaître, qu'il faut distinguer le québécois de l'avenir de la langue française. Tu dis aussi que dans le québécois, il y a des mots anglais. Il y a plus de mots anglais dans le québécois que l'inverse. Alors que, comme on est en plein dans l'actualité, que penses-tu des différents projets de loi là, qui ont été votés concernant ce sujet?
Je considère que l'un des paradoxes de ces projets de loi, c'est la question de la minorité qui est posée. Parce qu'il y a une minorité anglo-québécoise qui exprime aussi ses droits, et probablement à bon droit. Et c'est une minorité que la francophonie québécoise et les autres francophonies canadiennes, parce que la francophonie n'est pas limitée qu'au Québec, au Canada. Dans quasiment toutes les provinces du Canada, il y a des minorités francophones qui, à l'instar de la minorité anglophone ici au Québec, s'émeuvent à chaque fois qu'il y a des tours de vis en ce qui concerne les politiques linguistiques. Je considère que c'est le droit le plus absolu des Québécois de défendre le français. Personnellement, je suis très attaché à la langue française. Je n'ai pas de problème avec. Je la revendique comme ma langue maternelle. Voilà, je considère que le français est une langue africaine comme les autres. Donc,
Africaine.
Oui, tout à fait. Parce
que j'écoutais Fatoudium qui disait dernièrement dans une entrevue, qui disait il y a quelques jours, qui disait que en fait, c'est la langue du colon, mais c'est aussi la langue qui lui permet de s'exprimer avec d'autres personnes d'Afrique.
Saint-Gor le dit très bien, c'est notre butin de guerre.
Mm-hmm. C'est ça qu'elle disait.
Tout simplement. Donc, c'est une langue africaine. On ne peut pas évacuer le passé en disant que ça n'a pas eu lieu. Le passé a eu lieu. Donc, désormais, on se l'a approprié, c'est notre langue. Et elle nous appartient. Nous pouvons décider de son avenir, parce que je dessine un peu ce qui se passe, j'analyse un peu ce qui se passe avec le Nouchi ou le Camfranglais, le Nouchi en Côte d'Ivoire, le Camfranglais au Clermont, qui sont des expériences linguistiques extrêmement intéressantes. Mais pour revenir sur le contexte, dans le contexte québécois, qui me semble extrêmement intéressant, je considère que l'un des problèmes, en tout cas l'une des difficultés qu'il va falloir résoudre, c'est notre rapport à la nation. Je fais un très long développement au début sur la question de la nation et son obstination, le fantasme de l'homogénéité, de l'unité qui est associée à l'idée de nation. Donc, quand vous êtes associé, en fait, c'est un package. Quand un peuple se rêve national, il a tendance à ne pas accepter la diversité. La France n'avait pas que la langue française. Elle n'a pas que la langue française. Quand le moment de la cristallisation moderne de la nation française est advenu, juste peu de temps après la Révolution française, on a commencé par traquer les parlers régionaux qui ont été réprimés pour que tous les enfants de France parlent français. Donc, le problème de la modernité, c'est l'une des questions de la modernité, c'est la question de un État, c'est égal à un peuple, c'est égal à une langue. Et à partir de là, le Québec est dans ce schéma-là. Ce schéma d'un peuple. Alors que ce que moi je dis, c'est le français. Peut-être la langue officielle du Québec, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nuirait au français ou à l'avenir du français si on ajoutait, comme dans les pays africains ou je sais pas où, en Haïti par exemple, où le français est la langue officielle de l'État haïtien et le créole haïtien est la langue nationale? Rien n'est interdit. Dans les pays africains, les montagnes sont encore plus complexes. Genre, au Sénégal, comme vous le disiez si bien, au Togo, un pays que je connais un peu plus, il y a le français plus deux langues nationales. Donc, on peut associer, faire plus, quoi, tu vois. On est dans une logique de l'addition plutôt que de la soustraction. La nation est dans l'optique de la soustraction. Donc, cette loi-là, elle correspond typiquement à ce schéma-là. Tant qu'on ne rompra pas avec l'imaginaire national, on ne pourra pas penser un imaginaire des langues qui soit un imaginaire inclusif de la diversité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de considérer la diversité. On ne peut pas dire que la minorité anglo-canadienne n'existe pas, anglo-québécoise n'existe pas. De la même manière que nous nous émouvons à chaque fois que des atteintes sont portées aux droits des franco-ontariens ou des franco-manitobains, ou etc.
Je comprends. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup, en fait, d'avoir écrit ce livre, parce que sincèrement, j'ai trouvé super intéressant. Et en plus, en ce moment, il est en plein dans l'actualité. Donc, Radio, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ton... Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Me retrouver ?
Oui. Suivre ? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, par exemple ?
Ah oui. C'est vrai que depuis quelques temps, je me fais rare sur les réseaux sociaux parce que je considère que je suis un peu fatigué d'une des interventions publiques et des polémiques qui en suivent. Je consacre toute mon énergie à écrire mes prochains bouquins. Et si vous voulez, c'est le drame de ma vie parce que je cours après plusieurs lièvres à la fois. En ce moment, je suis en train d'écrire en même temps 5 bouquins. Donc, ça fait que j'ai suffisamment pas de temps de libre pour traîner sur les réseaux sociaux. Mais j'ai un site personnel, rajulmohamadou.com, où il y a quelques archives de ce que j'ai écrit là-dessus. Et de temps en temps, j'interviens sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me trouver physiquement à la librairie La Liberté, où je suis présent quelques jours dans la semaine.
Super, merci beaucoup Radul d'avoir répondu présent à l'invitation, merci.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Alors aujourd'hui, je reçois Mambou Fils, Driguel. C'est Briguel ou Driguel, on se trompe toujours de nom. Pas grave, Mambou. Alors toi, chaque année, on se revoit hein, finalement.
Oui.
Campagne de socio-financement cette année. Alors, Driguel, PDG, cofondateur DG, DG de 24 heures chrono, Ibrahim. On a fait une émission l'année passée aussi, ou cette année ensemble
c'est l'année passée. Hein.
L'année passée. Alors là, cette année, tu as une grosse promotion, là. Porte-parole. On va voir qu'est-ce que ça marche. Alors là, Briguel, oui. Tu as lancé une campagne de socio-financement pour ton organisme 24 heures chrono. C'est $1. C'est quoi là? C'est un défi ou un push-up pour $1. Bon, là, les gens veulent contribuer, mais ils veulent savoir c'est d'abord quoi 24 heures chrono, là. Qu'est-ce que vous offrez comme service aux jeunes immigrants? Parce que là, je rappelle, 24 heures chrono, c'est un organisme qui aide l'épanouissement, qui œuvre à l'épanouissement des jeunes immigrants. Mais quels sont les services que vous offrez? Puisque vous nous demandez l'argent, bon, on veut quand même savoir un peu à quoi ça va servir.
On offre plusieurs services, notamment les camps d'été pour les parents à faible revenu. Cette année, on va avoir plus de 50 jeunes qui vont bénéficier de ce service-là gratuitement. Grâce notamment à cette campagne-là de socio-financement.
Ouais. Tu as des programmes, d'autres programmes
ouais,
aussi.
Oui, il y a des programmes pour les...
Bon, je rappelle que je suis au studio avec, non pas trois personnes, mais aussi avec Oumou qui vient de faire sa dernière chronique littéraire. Oumou qui est aussi bénévole là.
C'est notre coordonnatrice maintenant, Volet Jeunesse maintenant chez
Vécatrice. Bravo! Oh, je savais pas! Je comprends pourquoi elle te surveille. Là.
C'est ça,
qu'est-ce
c'est
que
ça.
Tu vas dire?
Elle me stresse là.
Bon, alors, quels sont les autres programmes?
Il y a aussi le mouvement de jeunes leaders qui on accompagne les jeunes de 15 ans à 21 ans à travers le mentorat. On fait du bénévolat. Puis il y a plusieurs ateliers, notamment l'entrepreneuriat, théâtral,
le sport
aussi, un sport, soccer, basket et autres.
Super. Ben, je rappelle que moi, je suis tombé, on se connaît depuis longtemps. Moi,
oui.
Dès le départ, quand tu avais parti ton idée, là, j'ai dit ça, c'est une bonne idée. Et puis là, l'idée a bien grandi. L'année passée, vous avez fait une campagne de sous-financement réussie.
Oui.
Ça vous a ramassé combien d'argent là?
55 000.
Mon Dieu, ça marche ton affaire.
Mais grâce aux donateurs.
Et cette année, vous avez trouvé un grand donateur.
Ouais,
Ibrahim.
Oh oui. oui, exactement.
Alors, comment ça va, Ibrahim?
Ça va très bien, merci.
Toi, tu es PDG de Recruitlink. On en a parlé déjà, mais juste un mot là, c'est quoi Recruitlink?
Alors, Recruitlink, pour faire court, on est spécialisé dans le recrutement international et nous détenons également une plateforme numérique et nous sommes présents dans 24 pays à l'international.
Parfait. Alors, pourquoi tu veux aider cet organisme? Pourquoi tu as accepté d'être porte-parole?
C'est une très, 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 très bonne question. Merci d'ailleurs d'avoir posé la question parce que j'avais l'intention de raconter ma petite histoire.
Tu avais l'intention de me la poser, de me demander de la poser. Ouais, vas-y.
Alors, honnêtement, pour être transparent, j'ai vu 24 heures chrono avec Briguel sur les réseaux sociaux. Je suivais un peu ce qu'il faisait. Je trouvais ça vraiment noble comme cause. Et je pense que Québec, la communauté québécoise, la communauté en fait au Québec avait besoin en fait d'une structure comme 24 heures chrono, les encadrer, les accompagner, la jeunesse qui vient ici qui est désemparée. Mmh. J'ai trouvé ça vraiment ingénieux et surtout je trouvais ça osé avoir un jeune de la communauté prendre le lead et dire que non, bah stop. On est là pour accompagner les jeunes. On va mettre quelque chose de vraiment de structuré. Après, Miguel, je l'ai rencontré par la suite dans un événement avec l'ouverture des portes groupe 3737 ici. Et on a échangé, puis il y a eu une connexion. Et puis après, il m'a parlé de l'événement. Ben, je lui ai dit, mais écoute, c'est impossible que je n'embarque pas. Il faut absolument que Recruitlink puisse contribuer à cette belle cause qui est noble. Mmh. Donc voilà, c'est parti de ça. Et puis nous voilà aujourd'hui présents. Je suis porte-parole et je suis fier des porte-parole. Je le dis encore une fois, c'est une fierté pour moi que Briguel m'a proposé ce poste.
Qu'est-ce que ça fait le porte-parole en général? Tu mets un gros cachet, c'est tout. Ou qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu que t'as mis un gros cachet.
Ben il est là. Ça fait
ouais,
ça,
c'est ça. Qu'est-ce que ça fait un porte-parole?
Ben en fait, ce que ça fait, c'est vraiment de pouvoir inciter les gens à pouvoir venir aider la cause, à faire. C'est un rôle d'ambassadeur en fait. D'ailleurs, Briguel, c'est vrai. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que je dois faire en fait en réalité?
Parce que là, il y a aussi les ambassadeurs.
Il y a les ambassadeurs.
Parle-nous du porte-parole des ambassadeurs. Exact. Parce que là, tu en as recruté combien les ambassadeurs? Qu'est-ce qu'ils font?
Ben les ambassadeurs, eux, ils font le défi aussi.
Okay. En quoi consiste le défi?
Les défis, ça consiste à chaque fois qu'il ramasse un dollar, bah, il doit faire quelque chose de sportif. En fait. Oh, les push-ups.
Un push-up,
bah, ouais. Les push-ups, c'est ça. Mais les porte-paroles, c'est un ambassadeur aussi. Ouais. Mais porte-paroles, c'est vraiment comme l'image, on peut dire, principale du défi, en fait. C'est
ouais.
Comme je suis là, je ne suis pas avec les ambassadeurs, je suis avec les porte-paroles pour en parler.
Donc. Et les ambassadeurs, ils font. Là, tu les as. Tu en as combien?
Il y a une vingtaine, en fait. Okay. Ils utilisent leur réseau pour, ouais. Pour ramasser les fonds pour la cause. Donc,
Et je rappelle que l'année passée, là, moi, j'ai des amis. Qui fréquente le parc Victoria, mm-hmm. qui me rappelle toujours hein, le push-up l'année passée. Ça, c'est les a marqués. Là. L'idée mm-hmm. de push-up, là, ça marche. Hein. Puis les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Les papas là, du quartier Saint-Sauveur, ils m'en parlent tout le temps. Ah oui, l'ami, ton ami africain, là, oh, il était venu nous voir. Fait que ça, c'est une idée géniale, ça.
Ouais.
Encore aujourd'hui. Hein,
aujourd'hui. C'est
parc,
ça.
Les gens, ils savent déjà.
Ouais. On va prendre le micro, là, on t'entend
vas-y,
pas.
Vas-y,
bien.
Vas-y, vas-y.
Oumou, coordonnatrice, nouvelle coordonnatrice ouais. de 24 heures chrono.
Ouais. Coordonnatrice, je précise, bénévole.
Il n'y a pas l'argent.
Non, bénévole. Ouais.
Non, mais c'est bien. C'est
non, bénévole, j'ai choisi d'être bénévole exprès pour soutenir la cause. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, moi, c'est la première fois que je fais le défi push-up. Et à chaque fois que je suis partie avec Brigade au parc, eh ben, des fois, on n'a même pas besoin d'expliquer ce que c'est le défi parce que les gens nous reconnaissent. Ça fait un an. Les ouais. gens, ils connaissent la tête de Brigade, ils savent c'est quoi 24 heures chrono, on leur dit push-up, ils savent c'est quoi le défi, et puis ben c'est direct, ils nous donnent de l'argent et on fait des push-up. Donc ça c'est vraiment bien. Après, ce qui est plus difficile cette année, c'est le temps, c'est la météo. Okay. En fait, quand il pleut, ben si on va au parc, il y a moins de monde, il y a pas de personne, donc comme dit Brigade, on perd de l'argent. Donc on perd les push-ups.
La pluie vous fait perdre de l'argent. Là.
Non, c'est ça, mais c'est.
On perd plus les push-ups qu'il a. Non,
c'est ça.
Dans le micro. Là, je reviens, le temps que tu prennes le micro, oui. Là, je reviens à Ibrahim. Ibrahim, là, je suis très content de te voir. Pourquoi?
Merci,
parce que
pareillement.
T'es un entrepreneur, t'es immigrant aussi, t'es un entrepreneur
exact.
Qui réussit dans sa business, mais qui redonne aux petits frères. Et je trouve que ça, c'est intéressant, ça. Tu sais, la vie, c'est une chaîne de solidarité, surtout nous, les immigrants, là. Puis je trouve que ça, vraiment, c'est très intéressant. Est-ce que toi, tu essaies d'intéresser d'autres entrepreneurs, immigrants, africains ou pas, à ce que fait Brigade? Parce que, il y en a, là, les entrepreneurs ici. Mais, on les voit pas, hein? Souvent, alors moi je trouve que Drigel, tu fais, franchement moi j'aime beaucoup ce que tu fais là, ça fait longtemps qu'on se connaît et puis je trouve que c'est une idée géniale parce que comme disait Ibrahim, nos jeunes arrivent ici, ils sont un peu désemparés, même nous adultes quand on arrive ici c'est pas évident, à la plus forte raison les jeunes, puis c'est bien d'avoir un service comme ça, un grand frère qui est passé par là qui leur dit de quoi, mais toi tu fais du bénévolat aussi là, tu sais, et puis il faut qu'il y ait la communauté derrière toi, des entrepreneurs qui ont un peu du cash là, est-ce que toi tu sensibilises un peu les gens qui ont du cash là, les entrepreneurs même s'ils sont pas millionnaires là, donne un peu quand même à Brigade.
On a attaqué ça hein.
Exact, en effet en fait je suis quand même très très engagé, la preuve je me suis engagé pour un poste de porte-parole à la Chambre de commerce Québec-Afrique,
okay.
qui s'appelle Achaka.
Ouais, avec Franck.
Exact, ouais.
Ah bon.
En fait,
on continue.
Ben, en fait, je veux dire, la Chambre de commerce, ça se limite pas à une personne.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est tout un groupe. Et voilà, en fait, du coup, l'objectif d'ailleurs avec la Chambre de commerce Québec-Afrique, c'est d'attirer aussi des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, les encadrer, faire des séances de réseautage pour pouvoir se connaître déjà entre nous et s'entraider et se soutenir déjà. Et ce que je vois avec Brigade, ce qu'il fait, c'est vraiment super intéressant parce que ça va dans ce même sens. Avoir des programmes pour les jeunes leaders, avoir des programmes sportif parce que c'est important le sport, faut ouais, le dire hein. Même dans les études on dit toujours notre parcours académique, faut faire beaucoup de sport pour pouvoir nourrir le cerveau, pour avoir un cerveau plus ouvert ouais. Donc encore une fois je veux remercier cette cause, je voudrais vraiment qu'on reste dans le sujet du 24 chrono. Donc voilà.
Mais pour le 24 chrono, on a besoin d'argent.
Ouais, c'est exactement.
Mais alors là, comment ça avance la campagne? Là, tu as lancé depuis quand là?
Ouais, ça fait une semaine déjà.
Ça court jusqu'à quand? Ça finit quand?
Jusqu'au 3 juillet.
Fait que là, tu auras le soleil en masse.
Ouais,
comment ça avance, ta date?
On espère bien. On est à plus de 3000 si je compte bien.
Et la cible, c'est combien?
C'est 25 000. C'est quand même osé avec la météo qui nous.
Là, il te reste un mois, là, gros.
Il nous reste un mois. Puis avec notre
porte-parole. Alors, nous, Dignité Noire, on endosse complètement la cause. On lance un appel à nos auditeurs. Si vous avez une pièce, deux pièces, soutenez la campagne de sous-financement de 24 heures chrono. Pardon. Comment on peut contribuer là?
On est sur GoFundMe.
Okay. Donne un lien, GoFundMe.
Ouais, c'est ça. Vous pouvez ou bien aller sur nos réseaux, sur notre site internet aussi, 24chrono.com. Les gens peuvent donner directement sur le site, puis sur les liens GoFundMe sur nos plateformes Facebook, Instagram. Et tout.
Mais là, à part les ambassadeurs et puis le push-up que tu fais dans les parcs, est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour rejoindre du monde? L'année passée, ça a bien marché. Tu es sorti dans le soleil, des choses comme ça. Est-ce que
on est en train. Ben, je peux pas encore me prononcer, mais oui. On est sûrement qu'on va passer.
Parce que ça a aidé.
On est sur notre piste en fait, que on espère que ça arrivera d'ici la semaine prochaine. Mais oui, on va. Parce que là, je peux pas.
Je comprends. Oui, mais la stratégie. Mais qu'en est-il de la communauté, non seulement africaine, mais immigrante elle-même aussi? Tu sais, il faut quand même que parfois on mette la main dans la poche, là. On ne va pas toujours attendre des autres, comme Ibrahim le fait. Lui aussi, il fait sa part. Est-ce que les autres communautés, est-ce que les autres membres de la communauté, est-ce que tu as une stratégie destinée à ça, là? Parce que j'ai dit, à terme, là, c'est bon de tendre la main, mais il faut que, même dans notre communauté, on puisse aussi. Tu as levé un peu de fonds pour soutenir nos initiatives. Est-ce que tu vises aussi, tu inclus la communauté dans ta stratégie de com?
Là, pour être honnête avec vous, là, je viens de parler avec le président de l'association étudiante de l'Université Laval congolaise.
Ouais.
Donc là, j'ai eu au téléphone avec lui. Lui, il a dit qu'il va faire sa part avec les autres étudiants universitaires. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Puis les autres, on va essayer de mobiliser aussi. On a d'autres stratégies. Je tenais vraiment à le dire. Parce que là, on parle de Brigel.
Ouais.
Mais c'est 24 chronos avant, en fait.
Mais c'est toi un peu le confort de parole.
Je ne suis pas seul dans 24 chronos. Il y a une équipe derrière moi. Il y a Oumo qui est là. On est deux. Donc là, on parle l'équipe. Je préfère qu'on parle vraiment plus l'équipe 24 chronos qui est juste Brigel.
C'est qui l'équipe là?
Il y a Alexandra qui est là. Il y a Kevin.
Alexandra que j'ai reçu ici aussi.
Ouais, c'est exactement. Il y a notre nouvelle coordonnatrice qui est là. Puis il y a Kevin Agosa qui est l'autre cofondateur qui est notre tête de 24 chronos aussi.
Ouais.
Puis il y a Alexandra qui est notre intervenante maintenant. L'ancienne coordonnatrice qui est rendue maintenant intervenante. Puis il y a Riben qui est responsable du Matora. Puis il y a d'autres personnes. Il y a Jefferson Guillaume qui est quand même une tête d'affiche aussi dans différents projets aussi avec les jeunes. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui gravissent autour des projets. Donc là, c'est sûr que quand on parle de brigade, c'est bien, mais
c'est l'une des choses que j'aime beaucoup chez toi. C'est que tu es quelqu'un de groupe, de collectif. Tu vois,
c'est important.
C'est important. Chaque fois que je te reçois ici, tu tiens à soutenir. On the air, live, CKUT. CKUT.
Swanee Perilpopolo is back. And in real life for its 22nd edition. All the sights, sounds, and sensations of live music. After 2 years of online adaptation, Swanee is filling up the month of June with liberated music of all genres. Over 45 events and 90 participating artists performing indoors, outdoors, streamed for maximum accessibility. Record and book launches, workshops, a puppet show, a satellite Swanee happening in Wakefield, Quebec, of all places, and, of course, much more. For all the goodies, check out SwaneePerilpopolo.org. Masks will, of course, be required. For your audio program guide, tune in to the Montreal Sessions, Tuesday, May 24th, May 31st, and June 7 and 14th, from 3 till 5 p.m. The Swanee crew hosts will be serving up highlights of what to expect at this year's festival. This is, of course, a CKUT co-presentation.
The following is a previously broadcast program.
don't like your energy. I say far from it. Me no comic. Bad vibes, I don't want it. I don't want it. Stay away from it.